Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48, les débats ont déjà démarré hors antenne. Les grands débats ce matin avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois et vos appels 0826 300 300. Mais juste avant, vous bougez pas, on va vous offrir du bonheur parce qu'il faut que...
Oui,
oulala, il faut qu'on se détende un petit peu, on va vous emmener à Port Aventura World. Vous allez pouvoir vous amuser. L'Aquatic Park, le parc Ferrari Land, on vous offre donc pour deux adultes et deux enfants, 3 jours et 2 nuits. Petit déjeuner inclus. Alors c'est un très très beau séjour. Et pour ça 0826 300 300. Et c'est Françoise Degois qui va donner le chiffre entre 0 et 20.
12.
12e appel au standard pour ce très très joli cadeau. On vous attend.
Mais ce n'est pas pour vous. Hein,
non,
c'est pas
non
pour
mais vous, moi j'adore. Hein. Ah ouais. C'est Port Aventura.
Il y a
des trucs à faire.
Arrêt cardiaque
garanti, je vous le dis.
Non, mais ça va être c'est canon. C'est canon. Allez, 0826.
C'est une grande enfant.
Je vais l'amener, Elisabeth, sur le grand machin là. Tu sais, où tu montes à 100 mètres et tu redescends et t'arrêtes pas. C'est effrayant.
Excusez-moi, les filles. Est-ce que vous pouvez vous taire 2 secondes?
Ah oui.
0826 300 300, 12e appel, on vous attend au standard tout de suite. Bah, Elisabeth Lévy et Françoise Degois.
Bah oui, hein.
Bon, s'il vous plaît, dans débats. Le respect et le calme, et chacun son tour.
Comme d'habitude.
Pour qu'on s'entende de bien et qu'on se comprenne. Alors, dans les sujets, on reviendra sur le pass sanitaire, probablement aussi tout à l'heure, peut-être après 9h. On viendra aussi sur la question, en fait, du pouvoir d'achat, de la dette publique, parce qu'on sera avec Jacqueline Moureau, hein, qui sera avec nous, vous vous souvenez, qui avait lancé le mouvement des Gilets jaunes, notamment, enfin, elle était pas la seule, bien sûr. Et puis nous serons aussi avec Lim Wannock, qui a écrit un livre sur la dette qui est particulièrement intéressant et accessible en fait pour tous. Hein. Donc on ne va pas vous noyer non plus avec des chiffres. Juste avant, sur ce qui s'est passé hier au salon de l'armement à Villepinte, avec l'arme pointée par Éric Zemmour quand il l'essaie, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est complètement en fait déplacé? Est-ce que c'est une mauvaise blague ou est-ce qu'il y a une exploitation politique? Françoise Degois et ensuite Elisabeth Lévy.
Moi, je vais faire le procureur parce que je me suis exprimé. Oui. J'ai trouvé ça très, très heurtant. Pas parce que je suis une chouchoute et que, oh mon Dieu, ce serait affreux. Parce que je pense que c'est une faute. Ça dit beaucoup de choses déjà de ce qu'est Éric Zemmour. Alors, potache, bambin, légèrement frustré. Chacun fait l'interprétation qu'il veut. Je trouve quand même que ça dit beaucoup de choses d'Éric Zemmour. On ne va pas rappeler. On ne pointe pas une arme, même pour rigoler. Enfin, même les syndicats les plus hard de policiers ont dit ça ne se fait pas. Hier, je faisais les vraies voix avec Jean-Frédéric Poisson, qui est un des premiers raillés et qui a été très sévère avec Éric Zemmour. Il a dit, moi, en tant qu'officier de réserve, on ne s'amuse pas à faire ça. Et en off, il me disait, ça ne peut pas commencer comme ça la campagne de Zemmour. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est un soutien d'Éric Zemmour.
Ah oui, il a porté.
Voilà. Donc, ça, je vais vite et je termine en disant, mais ça dit beaucoup de choses, surtout, moi, je pense que ça dit encore plus de choses. Donc, carton rouge pour Éric Zemmour et carton rouge pour les médias. Honnêtement, j'ai suivi, à l'époque, vous êtes officier sur Inter et moi aussi, j'ai suivi des campagnes présidentielles. Si n'importe quel candidat s'était amusé à faire ça, même pour rire, je vous assure, dans la campagne Sego-Sarko ou bien en 2002, honnêtement, on aurait tous posé les nagras et on serait partis. Là, les journalistes continuent. On a même un chef de service politique d'une chaîne d'info continue qui n'est pas LCI, je le répète, qui pleure en disant c'est une pleurnicherie, en nous expliquant que c'est horrible à cause d'Éric Zemmour et puis à cause de l'ambiguïté du gouvernement, et on passe cette séquence alors qu'on n'aurait pas dû la passer.
Oui, parce qu'il y avait une réaction de Schiappa.
Donc je trouve que ça dit beaucoup de l'infantilisme d'Éric Zemmour, de sa forme de folie, ça dit beaucoup également, je trouve, nous, des journalistes.
Bon, Françoise Degois, Elisabeth Lévy.
En défense.
Oui. Alors je trouve cette polémique totalement délirante. Alors je dois dire, et en plus je pense que, comme d'habitude, ça va le servir, parce que, c'est peut-être maladroit, c'est vrai, je suppose que les armes à Milipol ne sont pas chargés, hein, excusez-moi. Je veux bien qu'on monte que les officiers de réserve, l'armée, tout le monde intervienne pour une espèce de blague de potache. Mais alors, le plus drôle, c'était Marlène Schiappa. Alors, Éric Zemmour, moi, c'est la faute que je lui... c'est d'avoir traité Marlène Schiappa d'imbécile. Ça ne se fait pas, et c'est pas parce que c'est une femme, c'est d'abord parce qu'elle est ministre, et puis parce que dans la vie publique, on traite pas les gens d'imbéciles, même quand on le pense. Donc ça, c'est ça, c'était pas bien. C'était pas bien. Mais bah oui. Mais franchement, ouais, toute cette affaire. Non, mais est-ce que quelqu'un peut croire? C'est horrifiant. Elle a pas d'autre chose qui l'horrifie, Marlène Schiappa, qu'une espèce de blague débile. Enfin, qui n'a. Pour moi, elle n'était même pas choquante. C'était bon. Voilà. Sur le moment, il fait ça, un truc de gamin. Évidemment. Si vous voulez, alors tout de suite on nous sort en plus la liberté de la presse, comme c'est drôle. Moi je dois dire, j'étais sidérée, mais ce qui me fascine, si vous voulez, c'est que à chaque fois qu'ils montent la sauce comme ça, les journalistes qui prennent leurs grands airs, leurs airs vraiment d'avoir deux airs comme disait l'autre, si vous voulez, ça le fait monter. Donc je n'arrive pas à comprendre, si vous voulez, pour se faire plaisir, pour pouvoir jouer les belles âmes indignées, les vertus outragées pendant ça, pendant trois secondes, et hop, ils produisent ce qu'ils redoutent. Donc bon.
Bon, d'accord.
Honnêtement, Françoise, un mot, ouais. Honnêtement, n'importe quel candidat aurait fait ça, Elisabeth.
Mais non,
mais moi la première,
tout.
Mais moi la première,
mais
François
pas
Hollande
en tous les cas.
Pas vous.
Pas
moi François Hollande se serait amusé à faire ce genre de conneries.
Mais arrêtons.
Mais non, vous passez, je suis pas dans la,
chacun
pense exactement ce qu'il veut.
Et mais ça vous l'avez dit quatre fois.
Non, mais le point
que chaque candidat. Non, c'est pas parce que vous le dites quatre fois que c'est une démonstration.
Je
ne crois pas que c'est vrai. Je crois qu'il faut quand même arrêter avec cet esprit
sérieux. Je pense que ça ne le fait pas monter du tout, contrairement à ce que je voulais vous dire. Je pense que ça ne le fait pas monter. Je pense que ça l'enferme. Ouais. Ils sont en train. Et pourquoi Marlène Schiappa réagit? C'est ce que je voulais dire. C'est qu'on voit qu'il y a un changement de doctrine maintenant à l'Élysée. Ouais. Il y a une décision désormais de taper Zemmour sur chaque chose, de ne plus le laisser gambader en liberté, pour justement le clouer d'une certaine manière et l'enfermer dans ses pires travers. Quand vous enfermez quelqu'un politiquement dans ses pires travers, il baisse pas et il peut pas élargir.
Voilà. Ce que vous dites, il y a une stratégie.
Je voudrais juste ajouter un truc.
Dernier mot.
C'est qu'en fait, ce que vous voulez, c'est une vie publique qui soit complètement compassée. Il y ait jamais, parce que ça, bon, voilà, c'est un truc de potache fait comme ça sur le moment. Ça n'était évidemment pas calculé. Ça n'est ni très intéressant ni très grave. On peut dire que c'est maladroit si on veut, mais si vous voulez, ce qui me frappe, c'est le terrible esprit de sérieux, c'est-à-dire tout d'un coup, et je ne crois pas du tout qu'un autre candidat aurait suscité exactement les mêmes réactions. Je trouve ça parfait.
Si Mélenchon avait fait ça, on serait en édition spéciale.
Stop,
hein, si Mélenchon avait fait ça,
stop,
je vous le dis. Hein.
Je ne sais pas. Bon, ce qui a changé aussi, Françoise, par rapport à il y a quelques années, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et l'ensemble des chaînes d'infos qui véhiculent en fait des images, alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant, et donc ça prenait moins de relief en fait s'il y avait des situations telles que celle-ci. Bon, voilà, on a compris.
C'était même forcément pas le cas.
0826 300 300. Si vous voulez quand même réagir, donner votre avis sur cette séquence, vous pouvez nous appeler. Parlons vrai sur Sud Radio. On se dit les choses. Et puis on va venir aussi sur le pass sanitaire, bien sûr, parce que ça vote beaucoup sur le pass sanitaire, notamment. Est-ce qu'il faut le lier, par exemple,
à la troisième dose?
Alors, à la troisième dose, pour les personnes aussi les plus fragiles, quoi, par exemple. Allez, dans un instant, nous sommes ensemble jusqu'à 10h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, c'est la suite des grands débats. On va parler du pass sanitaire et aussi du pouvoir d'achat avec Jacqueline Moureau qui est avec nous, qui est candidate à l'élection présidentielle. Ouais. Et Françoise Degois.
Oui, bonjour Jacqueline Moureau.
Bonjour.
Donc vous êtes candidate à la présidentielle. Vous l'aviez annoncé il y a quelques semaines et vous maintenez quoi?
Alors je l'ai annoncé il y a pratiquement un an.
C'était oui, c'est
le
vrai.
7 décembre 2020.
C'est vrai, ouais. C'est juste.
Donc j'estime qu'aujourd'hui le peuple doit se faire entendre.
Oui.
Et à travers cette candidature, eh bien, je fais monter la voix des Français dont je suis représentative.
Bon, vous aviez déjà, on s'en souvient, fait entendre votre voix au tout début du mouvement des contre. C'était contre, enfin, pour le pouvoir d'achat et contre les taxes, quoi.
Déjà. Absolument, mais c'était déjà la même chose.
Et donc là, ça revient, quoi, évidemment. C'est la même chose, quoi.
Ben là, c'est exactement la même chose, sauf que les conditions sont encore plus catastrophiques.
Ah bon? Pourquoi?
Parce qu'il y a eu la crise, évidemment, la crise sanitaire qui est passée par là. Et il ne faut pas croire que les gens, je dirais la France populaire, s'est enrichie depuis. Il y a des gens qui se sont enrichis, mais ce n'est pas nous.
Ouais.
Et d'autres se sont appauvris.
Bien sûr. On est passé là de 8 millions à 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Je ne comprends même pas comment ça n'alerte personne, ce truc-là. On a 10 millions de personnes qui vont, pour une grande partie, s'alimenter à la Croix-Rouge. Donc moi, j'invite les ministres qu'on a actuellement à venir faire des stages de citoyenneté et de survivalisme avec 900 balles par mois, voir comment ils vont finir le mois, ces gens-là.
Ouais. 900 balles avec aujourd'hui les conditions, évidemment, que l'on connaît sur les prix du carburant, plus de l'énergie dans son ensemble.
Ah
quoi,
bah,
parce
tout,
que
tout explose.
Là, vous aviez passé votre appel, c'était parce que vous sillonnez beaucoup la Bretagne. Alors, je ne sais pas si vous le faites encore, mais vous vous déplaciez, hein, c'était votre métier. Et évidemment, bah, ça se ressentait immédiatement sur votre pouvoir d'achat. Quand vous mettiez pour 40 ou 50 euros de plus, peut-être, dans le plein d'essence.
Oui. À l'époque des gilets jaunes, mon plein dépassait les 100 euros.
Oui.
Donc, de toute façon, ça dépassait mon autorisation de carte bleue. Puisque nous sommes les gagne-petits, si vous voulez, de la France. Donc, évidemment que ce n'était plus possible. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. J'ai calculé sur mon plein de 64 euros il y a quelques jours, j'ai 37,50 euros de taxes. Donc, il faut arrêter de dire que ce sont les distributeurs. Non, c'est l'État.
Mais il y a les distributeurs aussi, bien
mais
sûr.
L'État, mais l'État, c'est 2-3 centimes d'euros.
Oui, oui. Ouais.
Les distributeurs, pardon. L'État, c'est 37,50.
Oui,
donc,
oui,
l'effort doit être aujourd'hui fait par l'État français.
C'est vrai que la marge est... Alors, je pense que c'est un peu plus que 3 centimes, mais elle n'est pas conséquente sur un litre, sur un litre d'essence. On va en reparler dans un instant, et on parlera justement aussi de la dépense publique, etc., avec notre invité et vous-même dans un instant. Avant ça, on revient aussi sur le pass sanitaire qui pose question et l'obligation d'une troisième dose pour le conserver, pour les plus de 65 ans et les plus fragiles. Ça pourrait être l'une des conditions, avec les débats houleux qu'on a connus cette nuit à l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce que l'on sait autour de cette mesure, Adeline, dites-vous, dans le factuel, entre le pass sanitaire et l'obligation d'une troisième dose ?
Alors déjà, le projet de loi a été adopté in extremis cette nuit par les députés à 10 voix près, 135 pour, 125 contre. L'exécutif pourra donc recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, mais pas forcément en continu. Le pass est pour l'instant obligatoire jusqu'au 15 novembre. Pour la suite, l'idée, c'est soit de le maintenir, soit de le déclencher si les conditions sanitaires l'exigent. Ça, c'est ce que dit Olivier Véran. Et sur la question de la troisième dose, elle pourrait être obligatoire pour les plus de 65 ans et les plus fragiles pour avoir leur passe valide. Pour l'instant, c'est seulement une piste du gouvernement. Rien de concret n'a été annoncé, Patrick.
Oui, absolument. Et c'est la question que l'on pose aussi sur les réseaux sociaux. Faut-il rendre la troisième dose de vaccin obligatoire pour les personnes les plus fragiles ? Et là, vous dites non à 83%. Et ça réagit également au 0826-300-300, hein, qui est avec nous.
Gérald Deserre. Bonjour, Gérald.
C'est Gérald qui est avec nous.
Oui, bonjour l'équipe de Sud Radio.
Oui, bonjour Gérald.
J'espère que vous vous préparez pour la quatrième dose.
Bah, et la cinquième même.
J'en suis à la cinquième, oui.
D'accord. Non,
bon,
moi,
allez, oui, plus sérieusement.
Je suis absolument contre.
Oui.
Déjà, on devrait rendre obligatoire le choix, d'accord ? Le choix des personnes qui souhaitent ou pas se faire vacciner. Je veux dire qu'on n'arrête pas de nous la faire à l'envers depuis plusieurs mois. Là, c'est pour les personnes soi-disant les plus fragiles. Mmh. Moi, je sens bien l'histoire, c'est qu'on va nous obliger, qu'on soit moins de 65 ans ou qu'on ne soit pas fragile, à avoir une troisième dose obligatoire. Mmh. Parce que c'est pas l'histoire. Et ce qui me gêne derrière, c'est qu'on vous dit c'est pour vous protéger, etc. etc. Mais on continue le délire. Mmh. Franchement, c'est lamentable. Je vais pas citer le nom où je suis, hein, mais je suis dans un établissement public de santé. Je peux vous dire qu'on vous reparle d'une soi-disant quatrième vague, mais c'est du pipeau, quoi. Franchement, c'est la flûte enchantée.
Ouais. Quatrième, c'est cinquième pipeau. Même maintenant, puisqu'il y a déjà entre guillemets, la cinquième. Bon, je rappelle quand même au passage que les deux premières doses n'étaient quand même pas obligatoires. C'était recommandé par les autorités, mais c'était pas obligatoire. François, c'est pas obligatoire. Mais il y avait le pass sanitaire.
Non, mais
en tant que tel. Soyons factuels, en tant que tel. Dans les textes, ça ne l'était pas.
Patrick,
sauf pour des personnels soignants.
Est-ce qu'on peut se passer de ça, justement, de ce prolégomène ? C'est une rouerie politique, c'est une veulerie politique, c'est une hypocrisie politique absolument totale. Tout a été fait pour...
Attendez, Gérald, vous vouliez...
Non, mais je voudrais finir.
Oui, allez, terminer.
Nous sommes dans l'hypocrisie. hypocrisie totale. Tout a été fait pour rendre la vie, comment dirais-je, des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner impossible. Donc, c'est une obligation qui ne dit pas son nom. C'est oui, donc encore c'est... pire. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est on est hors des cadres, hors des clous. Il n'y a plus de proportionnalité. Il y a la quasi-totalité de des Français qui est vaccinée en deux doses. L'épidémie est en train de disparaître. Mmh. On ne peut pas continuer à vivre sous des régimes d'exception et en faire des régimes du quotidien. Ça n'est pas possible. Et par ailleurs, moi j'ai un grand trouble, vous savez, je suis vacciné, je ne suis pas dans une angoisse existentielle sur les vaccins. J'ai quand même maintenant un trouble. Où sont passés les AstraZeneca? On a évacué très tranquillement ce vaccin alors qu'on s'est tous fait, moi en tout cas je fais partie des gens qui sont fait vacciner, on n'en parle plus, mais il a disparu de la vaccination. Le Janssen, on l'a envoyé à nos amis...
Une seule dose, oui.
Le Janssen, il a disparu également. Ouais. Maintenant, on nous explique que la troisième dose, ça ne peut pas être le Moderna. Il y a quand même un problème également de crédibilité, si vous voulez, de plus en plus, et moi, qui m'inquiète sur les vaccins. Donc, ça ne va pas. C'est une façon de gouverner verticale, autoritaire, facile, et je suis sidéré du manque de réaction des Français. Bon. Je trouve que les Français sont d'une apathie et d'une aboulie hallucinante.
Merci, Françoise. Je redonne la parole à Gérald. Je disais... pas obligatoire dans les faits pour le grand public. En revanche, dans les établissements de santé, et c'est peut-être le cas pour vous, c'était obligatoire, hein, Gérald.
Oui, complètement d'accord avec vous, parce que en étant, je dirais, un salarié d'un établissement public, moi, j'avais deux solutions. Soit je refusais la vaccination, soit je ne la refusais pas. Si je la refusais, on me suspendait de mes fonctions et on me suspendait mon salaire. Ouais. Donc, vous n'avez pas de choix à un moment donné. C'est-à-dire, vous dites, moi, si on me retire mon salaire, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour vivre? Et le problème, il était là, derrière. Le fond, il est là. Mais je rejoins complètement de ce que disait la dame avant. On se moque du monde. Moderna, AstraZeneca, vous avez Johnson & Johnson, pourquoi pas Mir, ce qu'on veut, quoi. Enfin, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on vous donne plus du tout le choix dans ce pays. Et on vous impose des choses qui, pour moi, sont dramatiques.
Ouais. Merci, Gérald. Jacqueline Moreau, un mot sur le pass sanitaire.
Moi, je suis horrifiée. Et la troisième dose potentielle. Je suis horrifiée de voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Je vous rejoins totalement sur ce que vous avez dit. La France est apathique. Les gens sont en état de sidération. Vous savez, comme les lapins devant les phares de la voiture.
Vraiment, je suis d'accord.
Ils ne réagissent plus. La ficelle est tellement grosse qu'ils se disent « Non, ils n'ont pas pu nous faire ça. » Mais si, ils nous ont fait ça. Et je vais vous donner une information supplémentaire. Parce que pour venir à Paris, j'ai donc fait un pass sanitaire. Je ne suis pas vaccinée.
Ah, vous n'êtes pas vaccinée.
Je n'ai rien du tout. Mon test est négatif, n'est-ce pas? Parce que je me suis fait une petite automédication. Vitamine D et zinc depuis un an. Je n'ai rien attrapé. Bon, ça, c'est pour l'aparté, le traitement. Eh bien, l'infirmière qui m'a fait mon test m'a dit... De toute façon, ils ne vont pas s'arrêter puisqu'ils viennent de modifier les logiciels pour avoir le pass et tout avec quatrième dose, cinquième dose. Mais ils ne vont jamais s'arrêter. Ouais. Ils ne s'arrêteront que si on les arrête.
Bon, merci. On poursuit dans un instant avec vous, Jacqueline Moreau et Lim Wan Nok, que nous allons accueillir dans un instant, qui a écrit ce livre. Vive la dépense publique. Ça va vous intéresser. Changeons l'économie, quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'il nous dit dans un livre. On va en discuter dans un instant et vous pouvez appeler et réagir sur tous les sujets, évidemment. 0826 300 300, vous le savez, parlons vrai, vous êtes chez vous sur Sud Radio.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h19, c'est la suite des grands débats. On continue sur le pouvoir d'achat, toujours avec Jacqueline Moreau, qui est candidate à la présidentielle, et notre invité ce matin, Lim Wan Nok, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'Université Paris 1. Et ce livre, Vive la dépense publique, changeons l'économie, quoi qu'il en coûte.
Oui, c'est une forme de provocation pour beaucoup, ça.
Absolument.
Non donc vous allez pouvoir dialoguer aussi avec Jacqueline Moreau, qui c'est vrai, c'était fait porte-parole, étendard du pouvoir d'achat il y a 2 ans maintenant. Trois ans. Mais que ça passe vite. Le mouvement des gilets jaunes au tout début, avec ces questions de pouvoir d'achat et notamment liées au carburant à l'époque et puis aux surtaxes. Alors vous y allez carrément. C'est-à-dire que finalement, avec le quoi qu'il en coûte, on voit qu'il y a de l'argent en fait disponible. Il faut aller le chercher et on peut faire de la dette, quoi.
Bah oui, la leçon de cette crise sanitaire, c'est qu'on a trouvé de l'argent pour relancer l'économie, pour maintenir les entreprises à flot et pour gérer la crise sanitaire. On l'a fait parce que la Banque Centrale Européenne a fait le nécessaire pour que les États puissent emprunter à taux nul, voire à taux négatif, si bien que les charges de la dette, qui étaient de 50 milliards par an il y a 10 ans, sont tombées à 30 milliards par an. Et donc,
oui, mais c'est parce que les taux sont bas.
Mais les taux sont bas parce que la Banque centrale est intervenue. Et donc, ouais. La Banque centrale peut faire le nécessaire, contrairement à ce qu'on croit, pour que les États engagent les dépenses nécessaires à la transition écologique, à l'utilité sociale, aux services publics, au pouvoir d'achat, etc.
Oui, mais alors, les gens qui vous écoutent, là, il se pose quand même une question. Eux-mêmes, dans leur quotidien, ils vont à la banque pour emprunter de l'argent. Oui. Derrière, il faut la rembourser. Oui. Et ils savent bien qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent et qu'il faut rembourser. Oui. Donc comment faire, quoi ? Et que le prêt peut être bas, mais à un moment donné, le taux peut remonter également, quoi.
Bah, vous savez, les entreprises privées, elles font comme l'État. Hein. Elles empruntent à bateau et elles font rouler leurs dettes. C'est-à-dire qu'elles empruntent pour rembourser leurs dettes et dès lors qu'elles remboursent, on leur prête. Les États font exactement la même chose. Alors, pour les particuliers, évidemment, c'est pas comme ça, parce que les banques sont plus vaches avec elles qu'avec les entreprises, si vous voulez. Ça, c'est bien connu.
Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de l'explosion de la dette, selon vous, quoi.
Non. En 1914, la dette était de 100% du PIB. C'est semblable à aujourd'hui.
On a eu une guerre derrière.
Oui, mais c'est à ce moment-là qu'a été mis en place l'impôt sur le revenu, aussi.
Ben oui, mais c'est une excellente chose. Que oui. L'impôt sur le revenu progressif ait été mis en place par Jacques Cailloux à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas de problème de dette au sens où vous pouvez aujourd'hui faire en sorte que dans chaque loi de finances, les charges de la dette diminuent. Et le discours anxiogène sur la dette, en fait, c'est le discours de ceux qui n'aiment pas l'État, qui n'aiment pas les services publics, qui veulent privatiser les services publics pour baisser les impôts de leurs amis qui sont les premiers de cordée. Mais c'est un classique depuis 20 ans.
Est-ce qu'à terme, ça ne conduit pas à un système qui est beaucoup plus un système communiste, hein, utilisons en fait les termes, où on voit ce que ça donne, en fait, quoi. Ce mais système totalement pas. Égalitaire, mais quoi,
absolument
non ?
Absolument pas, parce que quand on prend le véritable indicateur de la part de la vraie dépense publique, hein, c'est celle des administrations publiques, l'investissement public plus la consommation des administrations publiques, ça c'est pas plus que 27% du PIB, c'est pas 57, contrairement à ce qu'on nous raconte en utilisant un mauvais indicateur. Par ailleurs, on a tous vu pendant cette crise sanitaire qu'il y avait un problème de déficit d'investissement dans les services publics. Pourquoi est-ce que les hôpitaux ont été trop vite mis sous tension? Pourquoi nos systèmes éducatifs souffrent aujourd'hui d'une insuffisance d'encadrement? C'est parce que, pendant 20 ans, la part des dépenses consacrées à la santé et à l'éducation a stagné, alors qu'on a eu plus d'élèves, plus d'étudiants, on a eu plus de personnes dépendantes du système de santé parce qu'il y a eu un vieillissement de la population, il y a le coût des techniques médicales qui a augmenté, et les dépenses n'ont pas suivi, parce qu'on a fait ce qu'on appelle communément de l'austérité. Dans toute l'Europe, on a fait de l'austérité parce que...
Ça, c'était le dogme.
Mais le dogme de l'austérité, c'est celui qui s'est imposé trop rapidement après la crise de 2008. Et on en tire aujourd'hui les conséquences.
Oui, mais regardez ce qui s'est passé en Grèce, quand même. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'austérité à un moment donné. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de dettes. Et après, justement, on a été obligé d'imposer cette austérité, en fait, terrible.
Oui, parce
que
le pays.
Oui, non, mais ça n'a pas marché. Mais le pays était quand même endetté, donc il a été obligé, de se vendre, quoi.
Moi, j'ai un débat avec mes collègues économistes de la Commission européenne où nous ne sommes pas d'accord. Ouais. Ils nous ont expliqué qu'en saignant les peuples par l'austérité, on allait relancer la croissance et en même temps réduire la dette. Ouais. C'est exactement le contraire qui s'est passé.
Je rappelle que vous avez été député européen.
Oui, dans tous les pays de l'OCDE, la relation qu'on observe n'est pas celle que décrivent ces économistes. Au contraire, là où il y a une augmentation de l'engagement de l'État dans les dépenses publiques que j'ai indiquées, il y a eu une reprise de la croissance et une réduction de la dette. C'est absolument pas ce qu'ils nous ont raconté. Au contraire, quand on a fait l'austérité, dans tous les pays de la zone euro, on a non seulement tué la croissance, mais quand vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de recettes fiscales, et quand vous n'avez pas de recettes fiscales, vous avez le taux d'endettement qui s'emballe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les gouvernements s'en rendent compte au point qu'ils ont suspendu le pacte de stabilité.
Oui, mais pourtant...
Et le sujet qui va venir à partir de 2022 en Europe, c'est est-ce qu'on suspend définitivement ce pacte de stabilité qui est une véritable stupidité? Et là, j'utilise les mots d'un ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, qui estimait à l'époque déjà que c'était une stupidité d'avoir adopté ce pacte.
Oui, mais alors il y a quand même eu ce clivage en Europe, puisque vous l'évoquez, où d'un côté, les pays... entre guillemets, du Nord, hein, et oui, jusqu'à l'Allemagne, faisaient attention à leurs dettes, etc., serraient un peu les boulons, pendant que les pays du Sud, eux, faisaient exploser leurs dettes et ont été beaucoup plus dépendants, quoi. Après, les pays du Sud, je pense à l'Italie, par exemple, qu'il a fallu mettre quasiment sous tutelle.
Oui, mais si vous regardez ce qu'ont fait les pays du Nord de l'Europe, présumés vertueux, leurs plans de relance ont été plus importants. Ont été les plus importants au cours de cette crise sanitaire. Ils ont pratiqué le déficit budgétaire, ils ont emprunté à taux bas au marché pour relancer leur économie. Les Pays-Bas en premier, beaucoup plus que nous. Alors, s'agissant des autres pays, bon, moi, je suis de ceux qui pensent que quand ça va mal, ouais, il faut emprunter pour relancer. Ouais. Et quand ça va bien, eh bien, au lieu de baisser les impôts, il faut affecter les surplus budgétaires au remboursement de la dette.
Ouais.
On a fait tout le contraire depuis l'entrée en vigueur de l'euro. Quand ça allait bien au début des années 2000, bah, on a baissé les impôts des riches.
Ouais.
Et quand ça va mal, quand ça a été mal après la crise de 2008, on a saigné les pauvres en faisant de l'austérité. C'est tout le contraire qu'il fallait faire.
Ouais. Allez, on va continuer avec vous. Et si vous voulez poser vos questions à Alim Wannock, qui est avec nous, qui écrit ce livre, qui va à rebours de certaines, évidemment, théories beaucoup plus libérales. Hein, bien sûr, vive la dépense publique. Non, mais vous l'expliquez
très
bien.
Mais la plupart des économistes pensent comme moi aujourd'hui.
Oui, hein, changeons l'économie, quoi qu'il en coûte. Bah, Emmanuel Macron avait dû vous écouter parce que c'était le quoi qu'il en coûte. Quoi,
oui, restez avec nous.
Allez, et Jacqueline Moreau est là, elle aura peut-être des questions à vous poser dans un instant.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h30 toujours avec nos invités, hein, Jacqueline Moreau qui est candidate à la présidentielle et puis notre invité ce matin c'est Alim Wannock qui est maître de conférence en sciences économiques et pour ce livre, vive la dépense publique, changeons l'économie, quoi qu'il en coûte.
Oui, et la France à vos côtés dans un instant également.
Oui, on va revenir sur Octobre Rose, vous savez que c'était du 1er jusqu'au 31 octobre tous les ans pour le dépistage du cancer du sein chez les femmes aujourd'hui et pour soutenir forcément la recherche et on en parlera à partir de 9h45 avec une jeune femme qui bien sûr est sortie, est en rémission du cancer du sein et avec une belle association qui s'appelle Rose Up qui lutte justement et qui donne des solutions pour vivre le mieux possible le cancer qui touche aujourd'hui 60 000 nouveaux cas par an chez les femmes.
Oui, Alim Wannock, donc Jacqueline Moreau qui est avec nous hein, et qui vous a écouté tout à l'heure notamment parler de la dette hein, c'est-à-dire vous dites vous bah, il faut s'endetter pour, et puis investir massivement dans les services publics, notamment, et c'est l'une des leçons de la crise du Covid qu'on vient de traverser, n'est pas forcément... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
alors,
ou pas ?
Non, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Mmh. Le service public... Moi, je parle de notre France rurale, que nous aimons tant, les territoires.
Ouais.
Le service public n'est plus là. Il n'y a plus rien. On fait 70 km pour trouver une préfecture et encore quand on veut bien nous recevoir. Donc là, je suis d'accord avec vous. Il faut rétablir le service public pour que les gens n'aient plus affaire à un mur ou à un ordinateur. Mmh. Parce qu'en plus, quand c'est sur les ordis, aucun logiciel ne fonctionne. Mmh. Il faut mettre 13 chiffres. Il n'y en a que 9 qui rentrent et on passe la journée dessus.
Ouais.
Donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous. En revanche... Moi, je suis pour un libéralisme populaire. Je suis pour qu'on baisse les charges des entreprises pour augmenter les salaires. Je suis pour qu'on augmente la prime à l'emploi pour encourager le travail. Donc, pour encourager les gens à continuer à travailler et à aller au travail. Je suis pour qu'on arrête de taxer les Français en taxes indirectes, les radars qu'on nous met un petit peu partout. Mmh. Alors, hormis pour toutes les infractions qui mettent la vie des gens en danger, mais le reste, il faut arrêter. On ne peut plus payer. Mmh. Et augmenter donc la part de dépenses de l'État, peut-être, je veux bien penser que... Vous avez certainement raison, je veux bien penser que ce soit faisable, mais pas sur le dos des Français. Regardez déjà, quand il faut baisser d'un centime le prix du carburant, hop, Bruno Le Maire a dit « Ah non, un centime, c'est un demi-milliard d'euros mmh. ». Donc, pas sur le dos des Français.
Alim Wannock.
Alors, il y a deux problèmes, les dépenses et les recettes. S'agissant des dépenses, vous avez raison, dans les milieux ruraux, il n'y a plus d'hôpitaux. Enfin, ils ont mis des hôpitaux de proximité dans la nouvelle carte hospitalière, mais c'est devenu des dispensaires parce qu'ils ont fermé les blocs opératoires et les maternités.
Mmh,
donc ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet avec le ministère de la Santé parce qu'ils ont pratiqué l'austérité dans les hôpitaux. Il suffit de demander aux médecins, aux infirmières. Aujourd'hui, ils sont en tension, même dans les gros hôpitaux régionaux. Quoi. Et là, il y a un vrai
partout,
sujet.
Oui,
dans la loi de finances 2022, on continue à fermer des lits, il faut le savoir.
Ouais, ouais.
Bon. Donc là, il y a un vrai problème, il faut engager des dépenses. Alors après qu'il y ait des mauvaises dépenses, il faut les éradiquer, évidemment, mais ça c'est le sujet classique de politique budgétaire. Il ne s'agit pas de faire de la dépense pour la dépense. Quand on met par exemple 20 milliards sur un CICE pour créer très peu d'emplois, c'est-à-dire un point de PIB pour justement baisser les charges des entreprises, comme vous dites, et surtout des grandes entreprises qui en ont particulièrement profité, ça n'a pas créé d'emplois. Et ça,
c'était, c'était pas le but en fait. Dans un premier temps, c'était plutôt essayer de recréer sur l'ensemble du tissu, et ça a surtout profité aux très grandes entreprises.
L'objectif, c'était de redresser ce qu'on appelle le taux de marge, c'est-à-dire la part des profits dans la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, la part des profits dans la valeur ajoutée, elle a atteint son taux record d'avant la crise de la Covid. Et si vous augmentez la part des profits, ça veut dire que vous baissez la part des salaires. Après, on se demande pourquoi il y a un problème de pouvoir d'achat.
Non, mais alors,
sur les recettes, là où vous avez raison, c'est sur l'imposition indirecte en France, qui est absolument élevée, puisque la TVA rapporte plus de la moitié des recettes fiscales, par exemple. Et si vous ajoutez la TIPP et toutes les taxes indirectes, on est quasiment à plus de 60% des recettes fiscales qui sont des impôts indirects. Donc là, il y a un vrai débat qui est un débat sur la justice fiscale, qui serait, mais il faudrait qu'un gouvernement s'y attaque un jour, de rétablir la justice fiscale ou de l'instaurer un jour en réduisant la part des impôts indirects pour augmenter la part des impôts progressifs, c'est-à-dire des impôts qui taxent les citoyens selon leurs facultés contributives, comme le souhaite l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ah là, vous m'intéressez déjà plus.
Il faut élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu, mettre dessus un barème progressif, rétablir l'impôt sur le patrimoine, notamment sur les valeurs mobilières aujourd'hui qui sont exclues.
Il n'y a que les valeurs immobilières qui sont taxées.
On taxe les classes moyennes, en fait.
On taxe
ceux qui accèdent à la propriété, alors que ceux qui détiennent la vraie richesse, c'est-à-dire les 0,1% de la population qui détiennent les actions des grandes entreprises et dont la majorité des revenus sont des revenus des actions, des dividendes qui ont explosé depuis 20 ans, ceux-là ne sont plus taxés.
Je suis 100% d'accord
avec vous. Le
problème, il
est là. Donc c'est pas abat l'impôt, c'est rendre l'impôt plus juste. Parce que s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de service public.
Oui, mais vous comprenez ce que dit, très bien, puisque là vous l'expliquez, ce que dit Jacqueline Moreau, c'est-à-dire que sur une grande partie de la population, les classes moyennes et puis les classes modestes, il y a quand même effectivement énormément d'imposition, et qu'à chaque fois, on ne se fatigue pas trop. On se dit, on augmente en fait les taxes, peu importe. C'est-à-dire qu'on a supprimé la taxe d'habitation. On l'a remplacé, évidemment, tout le monde l'a vu sur les factures de l'eau, sur les factures évidemment de l'électricité, sur les factures du gaz, où il y a des surtaxes qui viennent pour contribuer à l'enrichissement des collectivités, par exemple locales, que ce soit les municipalités, les départements, les métropoles. À chaque fois, vous avez une petite taxe de 0,7, de 0,8.
Mais c'est pour ça que je vous dis que l'impôt dans notre pays est injuste. Macron a baissé ce qu'on appelle les impôts de production des entreprises qui finançaient. Il a baissé la part régionale qui finançait les régions. Par quoi on a remplacé? Par la TVA. Or, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Parce que les pauvres consacrent au premier centime d'euro leur revenu au paiement de cet impôt. Alors que si vous prenez les plus riches qui épargnent l'essentiel de leur revenu, ils sont beaucoup moins touchés par la TVA.
Et on en revient à la réforme dont je parlais dans mon livre Jaune et après. Réforme du comité Bastille qui dit il faut abolir tous les impôts pour en mettre un seul. Un impôt sur le patrimoine passif. Et là, ce ne sont plus les mêmes personnes qui payent. Les plus riches vont payer au le juste prix. Là, on se rejoint. Tout simplement.
Finalement, comme quoi on peut vous mettre d'accord alors que vous n'aviez pas les mêmes positions au début. Lim Wannock, vous qui êtes un fin connaisseur aussi des politiques européennes, de la fiscalité et de l'économie européenne. Aujourd'hui, il y a un grand débat qui a été déclenché aussi un petit peu par la crise du Covid. C'est malheureux, mais c'est par ça. Autour de la souveraineté en fait économique, où on a vu que finalement on était probablement plus fragile qu'on ne le pensait. Qu'est-ce qui peut advenir en fait demain à l'échelle en fait nationale et puis peut-être à l'échelle européenne?
Dans notre livre Vive la dépense publique,
vous l'évoquez.
Nous évoquons ce problème et nous disons que si on veut que l'euro fonctionne, il faut intégrer. Il faut intégrer pour que les régions et les pays en difficulté convergent vers le niveau de de productivité des régions les plus en pointe. Et donc, pour ça, il faut transformer l'Union européenne en union de transfert, c'est-à-dire réaliser des transferts massifs à l'image de ce que fait le plan de relance qui a été adopté récemment, mais en le faisant à la puissance 10, ce qui signifie créer un impôt sur les sociétés européennes, ce qui signifie organiser la démocratie à l'échelle européenne, etc. etc. Donc faire une intégration politique en même temps que l'intégration économique pour faire en sorte que l'Europe soit une économie intégrée où il y ait des synergies entre toutes les régions européennes. Mais ça suppose des investissements à l'échelle européenne et des investissements publics massifs.
Oui, mais donc, vous savez qu'on...
Soit on fait ça, soit les pays sont condamnés à ce qu'on appelle des politiques de dévaluation interne, puisque quand ils vont mal, ils ne peuvent plus s'ajuster en dévaluant leur monnaie, donc ils sont obligés de baisser leur salaire. Ouais. Donc c'est exactement ce qui se fait à l'heure actuelle. Et ça ne marche pas, puisque ça a mené l'Europe au bord du chaos avant la crise de la Covid. Je parlais des politiques d'austérité tout à l'heure. Donc, le gros problème, c'est que personne ne veut ce modèle d'Europe intégrée. Aujourd'hui, vous posez la question à tous les citoyens européens dans n'importe quel pays, personne ne veut d'Europe intégrée. Donc il va bien falloir en tirer les
leçons. L'Europe
intégrée,
c'est quoi ? C'est
l'Europe
tous...
fédérale.
Oui, ouais. C'est l'Europe fédérale, voilà, absolument. Bah, moi, si vous voulez que l'euro fonctionne, techniquement, ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas une Europe fédérale. Ouais. Sauf si on fait de la dévaluation interne, sauf si on fait de l'austérité partout pour que ceux qui sont les plus faibles essayent de concurrencer l'Allemagne. Mais comme ce n'est pas possible, ils vont devoir saigner leur peuple. Quoi. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, si le modèle intégré n'est pas à l'ordre du jour, il va bien falloir... redonner des marges de manœuvre à
chaque
pays.
C'est revenir en arrière, quoi. Bah oui.
Bah, c'est redonner de la souveraineté au pays. Ouais. Et le vrai sujet, il est là. Si on veut être souverain, au bout du compte, un jour, il faudra proposer le problème de la souveraineté monétaire. Ouais, parce que si vous avez la souveraineté sans la souveraineté monétaire, quand votre pays va mal, vous ne pouvez pas dévaluer la monnaie comme le font les Chinois, les Américains, les Japonais. Et donc, si vous ne dévaluez pas votre monnaie, qu'est-ce que vous faites ? Vous baissez vos salaires.
Bon, ben voilà. En tout cas, je vous conseille ce livre, « Vive la dépense publique, changeons l'économie, quoi qu'il en coûte ». C'est aux éditions H&O, Lim Wannock. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Merci Jacqueline
Merci.
Moreau. On rappelle que vous avez lancé votre candidature à la Absolument. Présidentielle, fort de ce que vous aviez fait au moment des Gilets jaunes, et que vous continuez. Vous avez des gens qui vous soutiennent, qui sont derrière vous ?
Bien sûr, j'ai encore reçu ce matin, parce que je vous ai fait une petite publicité sur mes réseaux.
Merci. Oui.
Des gens qui me disaient « Vos paroles sont pleines de bon sens ouais. ». Donc, je continue. Pourquoi ? Parce que je sais ce qu'on vit, nous.
Oui, bien sûr.
Voilà. Aujourd'hui, dans les autres, tous ceux du Sérail qui se présentent, personne ne sait ce que vit un Français avec 5 ou 600 balles par mois. Mmh. Moi, je peux vous dire.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, vous allez pouvoir faire équipe avec Lim Wannock, avec cette rencontre ce matin.
Oh,
on verra.
Je ne suis pas libéral.
Allez,
restez avec nous. Dans un instant, la lutte, la France à vos côtés, la lutte contre le cancer.
Absolument, à tout de suite.